Bonjour à toutes et à tous, nous sommes heureux de vous présenter un nouveau podcast du groupe Équilibre féminin masculin de l'Amicale du corps des mines. Nous aborderons aujourd'hui le sujet de la charge mentale avec le docteur Nicolas Neveu, présent avec nous aujourd'hui. Bonjour docteur et bienvenue parmi nous.
Bonjour à toutes et à tous et merci de m'accueillir.
Nous sommes honorés de votre présence et que vous puissiez partager avec nous votre savoir. Afin de donner un peu de contexte à notre public, docteur Neveu, vous êtes psychiatre et psychothérapeute sur Paris. Vous avez été formé et pratiqué la thérapie cognitivo-comportementale, ou TCC, en lien avec l'AFTCC et la thérapie interpersonnelle, ou TIP, avec l'IFTIP. Également, vous possédez une entreprise de conseil qui analyse la faisabilité psychique des projets ou décisions envisagées par le commanditaire. Est-ce bien cela?
Oui, tout à fait.
Je vous remercie, docteur. Afin d'entamer la discussion sur la charge mentale, j'ai besoin de comprendre ce que signifient les termes charge mentale. Ainsi, qu'est-ce que la charge mentale, docteur?
Alors, la charge mentale est la charge cognitive, en fait, qui pèse sur les individus. Initialement, c'est un concept qui a été plutôt développé dans le domaine de la sociologie et cela servait à quantifier et donner une réalité, prendre conscience des charges cognitives qui pèsent hors du champ professionnel. Hein. Et notamment, ça avait été développé pour les femmes au foyer dont la charge mentale n'était historiquement pas reconnue comme importante et signifiante au regard d'une société qui, à l'époque, considérait que la seule charge mentale, c'était le travail. Et un élément donc, qui est important à retenir, c'est que la charge mentale se manifeste dans n'importe quelle circonstance et quel que soit le sexe. Il existe une charge mentale qui peut être portée par les hommes et par les femmes. Il n'y a pas de dichotomie genrée là-dessus. En tout cas, il n'y a pas par essence une charge qui repose plus sur l'un ou plus sur l'autre. Ce sera plus un contexte des règles interpersonnelles qui vont être portées dans le couple ou dans la société. Il existe toutefois une grande variabilité inter-individuelle, c'est-à-dire entre les individus, et une grande variabilité intra-individuelle, c'est-à-dire chez le même individu. Par exemple, pour quelqu'un qui n'est pas familier des mathématiques, qui n'est pas ingénieur, par exemple, résoudre des équations et devoir résoudre des équations, ce sera quelque chose de très difficile et qui représentera une grosse charge mentale. Au même titre qu'en termes de pathologie psychique, aller dans un jardin où il y a des araignées représentera une grosse charge mentale pour quelqu'un qui aurait une arachnophobie, une phobie des araignées. Donc la charge mentale se relie à l'importance de certaines actions au regard de la perception qu'en a la personne.
Très bien, c'est très clair. Après cette brève description, j'aimerais savoir comment la charge mentale se matérialise et notamment s'il y a des différences entre les genres et les sexes. Pourriez-vous éclaircir ce point?
En préambule de ma réponse, je souhaite souligner le fait qu'en sciences psychiques, nous essayons de ne pas normer les gens et on essaye de ne pas donner des règles ou des principes qui seraient caractéristiques et systématiques un petit peu rigides. On cherche plutôt à identifier les tendances générales sur la population, mais à aucun moment on ne définit l'individu. C'est-à-dire que là, on est en mode holistique, en mode macro, pas à l'échelle micro. Et donc, il faut surtout se garder de donner des tendances qu'on utiliserait dans le cas particulier. Il faut vraiment distinguer la généralisation et le cas particulier. Et donc, il n'est pas possible d'attribuer des pressaillants à un type de personne parce que ces pressaillants qui sont peut-être des choses tendancielles, au niveau individuel, ne seront présents qu'en fonction de l'inné et de l'acquis de l'individu. Il y a quand même une particularité, une spécificité de l'individu, en plus d'un libre arbitre. Ça, c'est important à comprendre. Donc, pour répondre à votre question sur la notion des tendances, c'est vrai qu'on observe statistiquement, souvent chez les hommes, une charge mentale qui s'oriente vers la réussite, notamment socio-professionnelle, avec un besoin de sécurité financière. C'est aussi une charge mentale en rapport avec l'ambition, même si on observe une évolution dans les dernières années avec une faculté à pouvoir, on va dire, relativiser l'importance de ses besoins et en mettre d'autres à un niveau aussi important. Et on va dire pareillement, sur un plan historique et statistique, très souvent, l'intendance dans le foyer va avoir chez ces individus moins d'importance. Hein? Et du coup, ces hommes, donc toujours au niveau tendanciel, vont avoir une charge mentale très orientée vers la réussite et du coup aussi la peur de l'échec et de tout ce que ça impliquerait, en termes de licenciement, de retard à la promotion, etc. Chez les femmes, eh bien, statistiquement et de façon à nouveau tendancielle, on sait qu'il y a souvent une préoccupation tournée vers l'intendance du foyer et le confort de la vie familiale qui est plus prioritaire que la réussite financière ou l'ambition. C'est, encore une fois, statistique, parce que je n'ai pas envie de me faire jeter des pierres. C'est statistique. Et ça ne veut pas dire que la préoccupation pour la réussite n'existe pas. Ça veut juste dire que statistiquement, elle est souvent moins importante, cette réussite financière, dans le développement de l'individu que d'autres éléments. Et donc, du coup, la charge mentale va porter sur des tâches beaucoup plus centrées sur la famille. Par exemple, la peur que les enfants vivent mal, se sentent mal. Mais il faut bien comprendre qu'en réalité, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, et il n'y a rien qui soit indissociable du sexe. C'est-à-dire que rien ne s'oppose à ce qu'il y ait des rôles qui soient inversés. De reste, dans les deux cas, on parle en fait d'accomplissement. Dans un cas, on parle d'accomplissement professionnel, dans l'autre cas, on parle d'accomplissement familial. Ce sont juste deux accomplissements qui ne sont pas de même nature. Toutes ces notions sont indispensables pour le fonctionnement de la vie quotidienne et la vie familiale et sociale. Et c'est lorsque, dans un groupe social, que ce soit au niveau familial ou dans un groupe social plus élargi, dès l'instant qu'il y a des besoins qu'aucun membre du groupe social ne souhaite satisfaire, ne souhaite prendre en charge, ne souhaite prendre en considération, alors c'est là que les problèmes vont arriver. Et qu'il va falloir gérer ce vide.
Merci pour ce regard, docteur. C'est très intéressant. Votre réponse m'amène assez logiquement à vous demander de la manière à utiliser pour établir l'équilibre au sujet de la charge mentale. En ce sens, quels conseils pourriez-vous nous prodiguer?
Pour répondre à votre question, il faut que j'aborde quelques principes de thérapie interpersonnelle. En thérapie interpersonnelle, on propose que le lien interpersonnel est composé de quatre éléments. Les règles interpersonnelles, les besoins qui sont au nombre de 11, les attentes qui sont concrètes contrairement aux besoins qui sont plus conceptuels, et la disponibilité de l'interlocuteur. Et donc ça, c'est fondamental à comprendre. Dans un lien, pour que ça fonctionne, il faut que le lien permette aux deux de voir leurs besoins satisfaits grâce à l'interaction, grâce au fait que dans l'interaction, les attentes qui répondent aux besoins vont être mieux satisfaites grâce à l'interaction. Et ça implique, un, de respecter les règles, et deux, que l'autre soit disponible. Donc, tout va dépendre des besoins que l'on va mettre dedans. Dans le cas de la charge mentale, il y a des besoins et des attentes. Supposons que de façon caricaturale, on considère qu'une femme nous dise j'ai un besoin d'appartenance au cercle familial, j'ai un besoin d'identité de mère, et donc il y a des attentes que les enfants soient bien, soient en bonne santé. Eh bien, encore une fois, dans un truc comme ça, la question, ça va être de se dire, est-ce que cette personne va mettre les bonnes attentes? Est-ce que cette personne rencontre auprès de son conjoint une disponibilité psychique à l'aider à ça, et quelles règles cherche-t-elle à imposer? Et cette charge mentale va varier énormément. Par exemple, si la mère a l'attente que les enfants aient des très bonnes notes à l'école, et avec une intention bienveillante indiscutable, la bonne question sera de se dire comment elle gère cette attente qui répond au besoin d'être une bonne mère, un besoin d'accomplissement de mère. Si du coup elle érige la règle que l'enfant doit travailler 8 heures par jour à l'âge de 7 ans, Ça a posé quelques problèmes parce que l'enfant n'est pas disponible à ça. Si elle considère que son mari, quand il rentre du travail, doit tout de suite se remettre à bosser l'enfant de 20h jusqu'à minuit, elle va se heurter à l'indisponibilité du mari et de l'enfant. Et donc, il va y avoir une réflexion à mener autour de la pertinence des attentes et des règles et la disponibilité de l'interlocuteur. Et la même chose peut être faite dans l'autre sens. C'est-à-dire le mari qui, lui, est aussi très intéressé, par exemple, imaginons, par la réussite de ses enfants en classe, peut considérer que la mère ne fait pas assez, que lui, il considère qu'il y a des règles qui devraient être faites, qu'elle devrait les faire plus travailler, que lui devrait les faire plus travailler, et pareil, il va se heurter à l'indisponibilité des enfants et de sa femme. Donc, pour travailler, puisque c'est votre question sur les conseils qu'on peut prodiguer pour essayer d'améliorer la charge mentale, c'est vraiment d'identifier les règles, les besoins et les attentes et la disponibilité qui sont en jeu, avec la notion que on ne peut jamais forcer l'autre à être disponible. Sinon, cela reviendrait à ériger la règle que les autres doivent m'obéir, et donc ça, c'est pas possible, et ce serait même très grave si on l'acceptait. Et deuxièmement, si on imposait à l'autre d'être disponible, cela reviendrait à dire que l'on piétine sa liberté propre et son autodétermination. Et donc ça, c'est très important à préciser.
Je vous remercie pour ces concepts et exemples très formateurs. Maintenant, je souhaiterais comprendre comment nous sommes arrivés à cette compréhension. En ce sens, quelles sont les principales avancées sur la compréhension de la charge mentale?
Alors, aujourd'hui encore, cette notion est très floue et sujette à des recherches. Ce domaine n'est pas consensuel. Par exemple, la thérapie interpersonnelle que je mentionnais n'existe que depuis 15 ans en France et a été créée il y a moins d'une cinquantaine d'années. De même, la TCC existe et ne se développe vraiment en France que depuis une vingtaine d'années. Donc, du coup, de manière générale, il va être difficile de faire pénétrer de façon durable ces notions et d'affiner la compréhension des phénomènes, du moins en France en tout cas, parce que ce sont des notions qui sont encore récentes. Les outils pour essayer de les modéliser sont encore trop récents. Du reste, il y a peu de temps, tout se faisait encore sous les principes et les modèles théoriques de la psychanalyse. Et en fait, ça ne fait qu'une trentaine d'années que l'on cherche à aborder les problèmes sous un angle beaucoup plus scientifique, avec une méthodologie basée sur les apports déjà de la psychologie expérimentale et maintenant aussi des neurosciences. Et donc là, pour l'instant, tout ça, c'est encore en développement, mais dans ce genre de domaine, la plupart du temps, on n'a pas de démonstration, on a surtout des modèles et des théories.
Cet aspect historique me paraît tout à fait fascinant. Et d'ailleurs, notre discussion me pousse à m'interroger sur la relation entre la charge mentale et le burn-out. La charge mentale peut-elle, selon vous, impacter notre santé mentale au point d'en souffrir lourdement?
La question est très bonne parce qu'il y a des ponts qui se font entre les deux. Ce sont deux notions qui ont des liens, mais qui ne se superposent pas. Disons que, pour simplifier, le burn-out présente une caractéristique quasiment systématique qui est que le burn-out est en grande partie lié à l'incapacité des gens à mettre des limites aux choses. Cette absence de limites et de capacité à poser les limites, fait que les personnes vont se retrouver à faire des choses et à s'investir plus que ce qu'il serait légitime ou stratégique de faire. Prenons l'exemple d'une situation très simple. Nous ne parlons même pas d'harcèlement au travail. Prenons un exemple où le patron est un patron humain, gentil, qui ne pressure pas ses employés et qui demande à son employé des services en nombre raisonnable. Finalement, il n'y a rien à reprocher à ce patron. Mais si l'employé ne sait pas dire non, eh bien, il va se laisser complètement englué dans les demandes sans être capable de dire non, et il va se retrouver surchargé avec un risque élevé de se retrouver en burn-out. Et dans ce cas-là, l'excès de charge mentale va être une conséquence de cette incapacité à mettre des limites. Mais on peut dire que la charge mentale existe même en l'absence de burn-out, puisque la charge mentale en soi n'est pas une pathologie. Et on a tous une charge mentale, hein, en permanence, et cette charge mentale n'est pas un souci en tant que telle. Elle n'est un souci que si elle excède nos capacités de gestion ou qu'elle excède ce qu'on est prêt à investir dans le secteur en question. Un autre exemple serait le cas d'un employé qui, lui, il sait dire non, il sait mettre des limites, mais il déteste son métier. Et pour lui, la moindre chose à faire pour ce métier sera une charge mentale, parce que ça lui coûte énormément, en fait, notamment émotionnellement. Il va regretter de n'avoir jamais réussi à faire autre chose de sa vie. Il va créer de l'amertume, aussi du dégoût, hein, de devoir faire quelque chose qu'il déteste. Et là, on pourrait dire que dans ce deuxième cas, la charge mentale sera d'autant plus importante qu'en fait, on trouve à sa genèse une mauvaise hiérarchisation de ses besoins. Et il n'y a pas de fatalité. Par exemple, il y a des gens qui vont être capables d'être, je pense à une dame qui est PDG de son entreprise, qui a 5 enfants et qui sait parfaitement gérer son temps et s'organiser. Parce qu'elle est très claire sur ses besoins, elle hiérarchise correctement les choses, elle sait mettre des limites et évidemment, elle sait aussi solliciter le soutien relationnel nécessaire pour être épaulée. Donc, le message fondamental, c'est que l'événement qui survient ne crée pas en lui-même le problème. Je parle d'un événement normal, je ne parle pas de la guerre en Ukraine ou d'un traumatisme, etc. Donc, mais dans la vie de tous les jours, les événements qui surviennent ne créent pas en eux-mêmes le problème. Ça va être la façon dont les gens vont y répondre qui peut engendrer le problème et le surcroît de charge mentale.
Ce conseil me semble pleinement pertinent. Et dans le même registre, selon vous, la charge mentale a-t-elle subi des évolutions récentes dues à un monde professionnel se modifiant au sens des nouvelles évolutions qu'on a pu observer ces dernières années?
On peut dire que la nature de la charge mentale, à mon avis, a changé. Si on revient sur le propos qu'on tenait au début, eh bien, désormais, les femmes ont une charge mentale dont la composante liée à l'ambition, à la charge de l'accomplissement professionnel, eh bien, a largement augmenté. Et les hommes font un chemin inverse où l'intendance et l'accomplissement familial prend de plus en plus de place. On voit régulièrement des hommes qui vont être capables, à juste titre et pour leur bien-être, de poser des limites en disant, voilà, ben non, même si vous me payez plus cher, ça ne m'intéresse pas, moi je préfère finir quand même à 17 h ou garder mon mercredi, ça se voit de plus en plus souvent. Et donc, voilà, il y a une modification de la nature de la charge mentale. Il y a un changement qui est à la fois qualitatif et quantitatif pour les deux sexes. Il faut aussi se rappeler qu'il y a un temps interstitiel qui est beaucoup réduit désormais. C'est-à-dire qu'on est dans une sorte de dictature du temps. Il est aujourd'hui assez difficile de se poser tranquillement. Il y a 50 ans, on pouvait le faire. Aujourd'hui, ce temps qui n'est pas dévoué à une efficacité, à une rentabilité, est de plus en plus rare. L'intendance et le confort qu'on peut espérer de la vie, on a du mal à se donner les moyens de le privilégier du fait de cette contingence au niveau du temps. Malheureusement, souvent, on se constate que cette réduction du temps est malheureusement résolue au détriment des enfants. C'est-à-dire que on va essayer de laisser l'enfant dans une situation où il va s'occuper lui-même, simplement parce que nous-mêmes, on a besoin de souffler, qu'on est épuisé, et le principe de réalité fait qu'on fait avec les moyens du bord. Mais c'est un problème parce que le risque, c'est soit de laisser les écrans servir de babysitter pour les enfants, au détriment de l'interaction avec les parents. Et deuxièmement, c'est un message qui est un peu embêtant parce que ça veut dire à l'enfant, tu n'es pas prioritaire pour nous, ou tu es prioritaire, mais on n'y arrive pas. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut être problématique et malheureusement, je crains que ça rentre dans un schéma plus global de réflexion autour de la façon dont on gère le temps et de la vitesse avec laquelle on se sent obligé d'évoluer et d'agir.
Vos propos me paraissent tout à fait en ligne avec les préoccupations actuelles de certains foyers. Également, en lien avec les conjonctures actuelles, je me posais la question de l'éventuelle relation entre l'équilibre financier des ménages et la charge mentale. Existe-t-il un lien entre charge mentale et équilibre financier d'un ménage?
Alors, à mon sens, le lien a changé, mais pas forcément en bien. Par exemple, au XXe siècle, on pouvait acheter une maison avec un seul salaire. Maintenant, il en faut deux et tout a augmenté doublement en proportion. Donc, malheureusement, je crains qu'il n'y ait pas de libération de charge mentale de ce côté-là. Et j'ai même plus l'impression qu'on observe une paupérisation de la France. Bon, ça, c'est des sujets qui nous emmèneraient un peu loin. Mais en cas de déséquilibre financier dans le couple, eh bien, supposons un cas où c'est la femme qui gagne mieux que l'homme. Et c'est de plus en plus fréquent, en fait. Ce n'est ni bien ni mal, c'est une chose qu'on observe. Eh bien, on s'aperçoit que la répartition de la charge mentale donc, s'inverse par rapport à ce qui était la charge mentale classique, mais le mécanisme va être complètement identique. Et donc, du coup, le déséquilibre va exister, mais ne va pas porter sur les mêmes personnes. En d'autres termes, on a un déplacement du déséquilibre et non pas une résorption. Du coup, pour continuer, on pourrait se poser la question, est-ce que les personnes qui ont peu de moyens financiers ont plus de charge mentale que le reste de la population? Alors pareil, là, c'est un sujet qui est très politique et on peut répondre un peu comme ça nous arrange, mais la réalité, c'est qu'il faut examiner s'il s'agit d'une corrélation ou une causalité. Et en l'occurrence, on va dire, moi, je vais donc pas dire que c'est démontré tout ça, puisque ça c'est pas forcément démontrable, mais on a quand même l'impression qu'il y a une certaine notion de corrélation plus une causalité. En d'autres termes, comme on l'a dit tout à l'heure, pour pouvoir bien gérer la charge mentale, il faut un certain niveau d'élaboration, un certain niveau d'introspection, de capacité à hiérarchiser ses besoins, capacité à s'affirmer, à poser des limites, et bref, à mener une stratégie de vie. On peut supposer que si on est en difficulté là-dessus, on va avoir à la fois des difficultés au niveau de la charge mentale et à la fois aussi probablement, on va dire, plus de difficultés à gérer ses revenus. Donc, ça procède plus d'une corrélation, c'est-à-dire deux conséquences d'un même phénomène qui est une difficulté qu'on a à élaborer. Et quand je dis ça, je ne parle pas d'intelligence, hein. Je parle du fait que ce n'est pas donné à tout le monde, c'est quelque chose qui est compliqué de pouvoir mener ce processus mental. N'allons pas dans des raccourcis du style c'est un manque d'intelligence. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que la faculté à pouvoir s'introspecter et mentaliser tout ça, ça n'a rien à voir avec. Enfin, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas l'intelligence au sens commun du terme. C'est une forme d'adaptation que tout le monde n'a pas forcément. La démarche dont on parlait tout à l'heure, d'aider les personnes à pouvoir identifier, hiérarchiser ses besoins, prendre conscience de ce qu'on veut prioriser. Ça pourrait éviter beaucoup de souffrances. Mais pour ça, il faut que les gens aient accès à cette information, à cette compréhension. Voilà, ça, c'est un autre sujet.
Merci docteur pour cet éclaircissement. Et finalement, avant de clôturer ce podcast, j'aimerais savoir si la charge mentale a été impactée par la crise du Covid.
Alors, cette crise a été, comme on peut l'imaginer, un drame sanitaire, mais par contre, comme dans beaucoup de crises, il y a des enseignements qui sont à tirer. La survenue de cette crise a amené beaucoup de personnes à se poser des questions qui ne se posaient jamais jusque-là, notamment sur la hiérarchie qu'ils mettaient dans leurs besoins, ce qui était le plus important pour eux. Et donc, par exemple, des employés qui jusque-là manifestaient une dévotion totale au travail ou à leur entreprise ont relativisé la pertinence de cette dévotion. D'autres personnes ont pris conscience qu'en fait, leurs enfants, ben, ils ne les voyaient pas, et là, ils les voient. Et que finalement, c'est pas mal de voir ses enfants, c'est une chose qui peut servir. Et donc, ils se sont rendus compte que finalement, il y avait une prééminence à leurs yeux, dans leur système de valeurs, de ça. Ça a permis d'attirer l'attention des gens sur des sujets qui parfois ils avaient tendance à négliger. Ils étaient tentés de négliger, alors que d'autres sujets qui étaient très importants ont fini par être un peu plus mis de côté. Ce qu'il faut bien percevoir, c'est que dans beaucoup de cas, on s'aperçoit que les gens ont pris conscience, mais qu'après, ça ne suffit toujours pas forcément pour mettre des limites. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on sait très bien que entre le moment où on prend conscience et le moment où on va pouvoir réagir pour faire une modification, eh bien, il peut y avoir un petit délai et un apprentissage nécessaire. Mais on sait que sans cette prise de conscience, il ne pourra pas y avoir de changement. On ne peut pas dire que la crise du Covid soit en tant que telle un bienfait. Par contre, ça mérite d'en tirer des enseignements, notamment le fait de se dire peut-être que sans crise, on peut aussi se poser ces questions-là qu'on a été obligé de se poser à cause de la crise. Et c'est ça que je pense important, c'est que pour mieux gérer la charge mentale, il serait bien intéressant d'aider les gens à mieux organiser la hiérarchie de leurs besoins et mieux être capable de poser des limites.
Je vous remercie très chaleureusement, docteur Neveu, pour avoir partagé votre savoir avec nous aujourd'hui. Ceci conclut notre nouveau podcast sur la charge mentale. J'espère que notre public aura apprécié notre échange et j'attends d'éventuels retours afin d'améliorer cette expérience. Docteur Neveu, encore merci pour votre participation. Auriez-vous quelques mots à nous partager avant de nous saluer?
Comme toujours, c'est important de finir avec un message fondamental, une punchline, quoi. Et je vous dirais que si on veut diminuer la charge mentale, prenez conscience de vos besoins, prenez conscience de ce qui est vraiment important pour vous et autorisez-vous à mettre des limites.
Merci beaucoup et merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle discussion sur un sujet différent.